Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors le message que j'ai envoyé quand je suis passé à l'acte pour réconforter en fait ceux pour qui j'avais une grande affection. Je vous aime, mais je dois disparaître de cette terre où je n'ai pas trouvé ma place. Je pars sans regret. Je le fais sans me retourner, car l'univers m'appelle vers lui et je vous laisse faire ce que je n'ai pas su réaliser. Je n'ai plus que ce message pour vous convaincre. Ne me pleurez pas, je serai dans la paix et la sérénité de l'univers. Je continuerai à vous aimer, à vous aider, à trouver le chemin de cette vérité et remettre tout à zéro. Je vous aime, votre Jacques, dans vos cœurs pour toujours. Bon courage à tous. En fait, le travail vous dévore. Et c'est là où il vous broie. Et après, tout dérape. Voilà. Monsieur Lombard, il a dit que c'était un phénomène de mode. Et c'est insupportable de l'entendre. Et puis, surtout, il ne faut plus qu'un grand manager dise des choses pareilles. Se suicider, ce n'est pas une mode.
Lundi 6 mai 2019, le procès de France Télécom en tant que personne morale, devenue depuis Orange, et de 7 anciens cadres et dirigeants de l'entreprise, s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris. Ils comparaissent pour harcèlement moral ou pour complicité au harcèlement moral. Les faits s'étalent sur une décennie et ont été révélés à partir de 2009, à la suite d'une vague de suicides parmi des salariés de l'entreprise, baptisée « mode du suicide » par le PDG d'alors, Didier Lombard, qui s'est ensuite excusé d'avoir utilisé une telle expression. Dans un de ses brillants articles auxquels elle nous a habitués, Pascal Robert-Diard est revenu lundi dans Le Monde sur la chronologie de cette affaire retentissante. Elle commence en 2006, France Télécom a été privatisée 2 ans plus tôt et se trouve en pleine difficulté financière. L'entreprise vient de lancer son grand plan de réorganisation, baptisé Next, pour Nouvelle Expérience des Télécommunications. Elle consiste entre autres à embaucher 6 000 nouvelles personnes, à en muter 14 000 et à supprimer 22 000 postes en poussant les salariés au départ, par la fenêtre ou par la porte, pour reprendre une fois encore les termes du même Didier Lombard. Dans le dossier, les juges évoquent, je cite, « des pratiques d'incitation répétées au départ, de mobilité forcée, des missions dévalorisantes, de l'isolement ». D'après les syndicats et la direction, 35 salariés de l'entreprise se seraient suicidés en 2008 et 2009. J'ai vérifié ces chiffres, ils sont exacts. Le suicide est certes un geste complexe, souvent mystérieux, qui associe de nombreuses causes, mais dans ce cas, les précautions d'usage sont difficiles à prendre. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un service public qui se privatise, mais celle de la gestion catastrophique d'une mutation technologique qui explique ces suicides et réelles catastrophes. Le procès va durer 2 mois et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter tout de suite ou de réécouter l'histoire de Jacques Bigret que nous avions diffusé pour la première fois en 2010. À 54 ans, alors salarié chez France Télécom, il avait tenté de se pendre chez lui à Marseille avant d'être miraculeusement sauvé par des marins pompiers. Au micro de Charlotte Bien-Aimée, il revient sur les raisons de son geste et sur la façon dont France Télécom l'a broyé, pour reprendre ses mots.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Jacques Bigret, j'ai 54 ans. Donc, j'ai commencé à travailler à France Télécom donc à partir de 1984. J'ai été très fier de travailler pour France Télécom dès le début, en 84, parce qu'en fait, je me disais, c'est un service qui était porteur d'une marque, et je me suis dit, France Télécom, c'est quand même une belle entreprise. Et puis, en fait, c'est devenu une excellente entreprise, c'est devenu un opérateur de référence, c'est devenu un opérateur national, européen, international, et j'ai même fait de l'identification à la marque. J'ai culpabilisé sur les enjeux, en fait, de réussite ou d'échec. Donc, j'étais en arrêt de travail donc, à partir de la fin septembre, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus en capacité de travailler. Donc jusqu'au 13 octobre, j'ai fait une tentative de suicide parce que j'en pouvais plus, parce que c'était insupportable. J'étais parti dans une phase de culpabilisation, de plus être à la hauteur, de plus être compétent, de plus assumer toutes ces pressions multiples. Et puis bon, voilà, ça explique mon acte et mon retranchement complet sur une voie d'en finir, de souffrir. En fait, moi je suis rentré à France Télécom par concours, donc en tant que fonctionnaire, et dans le ministère des PTT. Après, il y a eu des évolutions. Il y en a certaines que j'ai vues sans souffrance. Après, petit à petit, quand ça a glissé vers le statut de privatisation, on sentait déjà les premières souffrances de l'atteinte à la sécurité. C'est la concurrence des prix, la concurrence des services, la concurrence de la compétence aussi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai glissé parce qu'en fait, à un moment donné, on est atteint en fait, dans notre compétence. Et c'est ça qui use. Au fur et à mesure, vous vous donnez beaucoup trop et puis vous ne recevez pas beaucoup en échange. Et puis en plus, vous êtes pénalisé parce qu'en fait, vous n'avez pas pu donner parce que vous étiez en état de fatigue. Et après, quand vous voyez le résultat de votre démotivation qui se traduit par une baisse de votre prime, c'est pareil. Là, vous vous dites, j'ai tout gagné là. On met la pression, en fait. Disons que si on travaille normalement, la prime, elle n'est pas forcément conséquente. Il ne faut pas être que suffisant, il faut se dépasser. Et il faut se dépasser à moindre coût. Donc en fait, si tout le monde se met à se dépasser, en fait, on remet la barre un petit peu plus haut. Donc en fait, c'est la course en fait, à la productivité. Moi, le stress le plus fort que je subissais, c'était le nombre d'appels et puis le bruit constant en fait dans les open space. Ah oui, ça pesait beaucoup, ça, d'avoir ce bruit constant en fait, des appels, des voix fortes des autres collègues en train de s'expliquer sur des problèmes complexes, etc. Et ça, c'est polluant pour le temps de réflexion, de fermeture, par exemple, de certains dossiers. Quand vous êtes en open space, vous écrivez n'importe quoi et n'importe comment et vous oubliez les manipulations et ça vous pénalise après pour la suite. Donc en fait, on fait des heures supplémentaires de rédaction dans la tranquillité, soi-disant, mais sans le bruit de fond en fait, de l'activité de la journée. On n'ose même pas dire qu'on a fait des heures supplémentaires parce qu'en fait, ça fait partie de la tâche première en fait, de fermer le dossier proprement, etc. Moi, je pensais au travail en dormant. C'est pas normal. Ça ne doit pas vous suivre jusque dans votre sommeil, le travail. Vous vous réveillez à 3h du matin en sueur en disant « j'ai fait une connerie et tout ça, je viens de m'en apercevoir, j'ai oublié de faire ça, etc. » C'est bien qu'en fait, le travail vous dévore. Et c'est là où il vous broie. Et après, tout dérape. Voilà. Des gens pour supporter la pression utilisent des moyens comme la drogue, l'alcool. Et ça c'est vrai, faut pas se cacher les yeux. Moi j'en connais qui ils ont pas déprimé à cause de ça parce qu'ils fument. À la pause, c'est pas de la cigarette, c'est de la drogue, hein, mais voilà, c'est tout pour être bien, pour passer au-delà. Et puis au moment des repas ou même en dehors, il picole. Moi, j'ai pas utilisé ces deux stratagèmes, donc en fait, j'ai peut-être pas évacué. J'aurais peut-être dû fumer, j'aurais peut-être dû boire. Non, c'était pas mon choix là. Et puis, il y a eu des petites annonces où il fallait faire glisser certaines personnes vers l'extérieur. C'est-à-dire, on nous demandait de commencer à faire des moins. Ne pas négliger, en fait, d'aller voir ailleurs, vers des sociétés privées qui n'ont rien à voir avec France Télécom. j'ai senti que j'étais déprécié par rapport à ma valeur. Qu'en fait, comment je pourrais vous dire, comme si j'avais été une valeur boursière en hausse et que d'un coup, vous étiez une valeur qu'on pourrait retirer du CAC 40. Et là, c'était du CAC France Télécom. C'est-à-dire, en fait, vous avez été productif, valorisant pour l'entreprise. Et puis maintenant, allez voir ailleurs parce qu'en fait, là, maintenant, vous manquez peut-être de quelque chose. C'est la sensation que j'ai ressentie dans ces propositions. Et ça fait mal. C'était brutal. France Télécom ne licencie pas. Mais on s'aperçoit quand même que le nombre de salariés, au fil du temps, il a méchamment baissé quand même. On ne veut pas vous licencier, mais on veut vous faire glisser vers autre chose. Et quand on sait qu'il y a des incertitudes sur le marché, etc., en fait, ils ménagent le chèvre et le chou, mais en fait, c'est le premier qui casse qui s'en va. C'est une façon plus ou moins déguisée de licencier les gens d'une autre façon. C'est pas du licenciement, mais c'est du découragement.
Passer les derniers mois.
J'avais un repoussement d'aller au travail. Le matin, je mettais la clé dans le démarreur de la voiture, je l'éteignais avant que le moteur soit. J'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie de traverser la ville de Marseille. Je me disais, là, j'en ai pour trois quarts d'heure minimum, et puis peut-être une heure et un quart, suivant les encombrements. Et ça vous met pas en prédisposition pour accepter après le ton agressif des collègues. Et puis la hiérarchie aussi pesante qui demande des objectifs, c'est la lassitude, la fatigue. Le lendemain matin, quand on a mal dormi, on remet la clé dans la serrure et on peut pas. On se dit j'y vais pas parce que j'ai plus envie. Et puis après, quand on n'a pas envie, on part quand même. Mais quand on arrive, on a toujours pas envie. Hein. On respire un grand coup et on se dit pourvu qu'aujourd'hui ça se passe bien. Mais en fait, ça se passe pas forcément bien. Mon comportement est devenu très agressif, en fait, par rapport aux autres environnements. Mon environnement familial, mon environnement amical, où je n'osais pas en parler, etc. Et donc, enfermement. Et puis, à un moment donné, l'esprit de fuite, de vouloir partir à tout prix. Et quand les portes se ferment les unes après les autres, vous avez plus qu'une porte de sortie, voilà, c'est tout.
Et quelques mois avant votre geste, il y a un collègue à vous qui s'est suicidé, Michel.
Michel, je le connaissais pour avoir travaillé auparavant avec lui, et c'est vrai que ça a été un choc. Il s'est suicidé, il a signé son acte en accusant France Télécom, et ça, c'était la première des clartés, en fait, qu'on n'avait jamais voulu s'avouer, en fait. Je pense que c'est un déclencheur aussi de dire qu'on n'était pas bien, en fait, dans ce qui se passait à France Télécom ou dans d'autres entreprises. Et puis les gens comme moi qui étaient déjà persuadés qu'en fait ça marchait pas bien, et puis qui vivaient une angoisse pour venir travailler, ça n'a pas arrangé la chose. Hein. C'est en fait c'est une souffrance qui a tapé à la porte et puis qui a engouffré en fait le verre. Le suicide, c'est peut-être la solution. Surtout que la semaine d'avant, moi j'étais un peu dans mon brouillard personnel et j'ai pas compris une alerte qu'il allait faire ce geste. À un moment donné, je passe la porte de l'établissement et je dis encore une journée, je ne sais pas comment elle va se passer, mais franchement, ça devient insupportable. Et lui, en rentrant, il dit il y a des moyens beaucoup plus simples pour éviter ce genre de souffrance. Moi, je n'ai pas capté à l'époque, mais 10 jours plus tard, il s'est suicidé. Il a laissé un courrier en relatant que l'entreprise était trop demandeuse, n'était pas donneuse de tous les moyens pour pouvoir arriver à faire son travail dans les bonnes conditions, les conditions de travail, les surcharges de planning, le flou de la stratégie globale et puis le manque d'équité, d'égalité en fait dans les phénomènes de récompense aux objectifs atteints, et puis les objectifs de plus en plus serrés, et puis oui, ces mouvances perpétuelles qui font qu'en fait, on peut être adaptable à un moment donné, mais après, on ne peut plus accepter l'adaptation, parce qu'en fait, on est des humains et qu'on a on a des limites.
Vous vous souvenez un peu de sa lettre ou...
Oui, sa lettre, ça, je m'en souviens, parce que j'ai articulé une écriture justement de cette lettre.
Vous avez envoyé une lettre à la direction après le suicide de Michel.
Oui, en disant que je ne voulais pas être le suivant. J'ai articulé aussi dans le descriptif la chanson de Brel, au suivant. Et j'ai bien fini la lettre en disant je ne veux pas être le suivant, parce que je sentais déjà que moi je pouvais être comme Michel, un phénomène de ras-le-bol, et acculé vers cette porte de sortie. Et ça fait mal, ça, parce qu'en fait, vous le traînez, et jusqu'au jour où vous ne pouvez plus le traîner. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Tout le moins, si je mangeais, je ne gardais pas les repas. Donc en fait, je me suis senti atteint dans ma structure humaine. Et en fait, là, j'étais en rejet total même de ma personnalité. J'avais été, comme on dit, décervelé. Et quand on n'a plus de cerveau, plus rien ne fonctionne. Le physique ne fonctionne plus. J'ai fait une déperdition de poids en une semaine avant que je décide de m'arrêter, parce que je m'en suis rendu compte. J'ai été conscient, en fait, que j'étais en train de devenir une loque. Qu'il fallait arrêter. Mais la glissade a continué. Puis 10 jours plus tard, j'ai glissé complètement. Voilà. C'était le 13 octobre, mais c'était le soir. Et c'était au bout d'une journée où j'en pouvais plus. Voilà. On prend conscience qu'on veut partir quand même. Enfin, moi, j'en ai eu la conscience. J'ai eu la conscience de partir et de dire au revoir. J'ai quand même voulu dire au revoir à tout le monde pour pas les responsabiliser par rapport à ce que je faisais, parce qu'en fait, c'était pour leur dire que j'étais fatigué à l'extrême et que je pouvais plus supporter le poids non seulement du travail, mais aussi le poids de cette société qui porte en fait à mettre le travail au centre de la préoccupation générale et du rapport du travail comme une préoccupation essentielle à l'existence. Bon, c'est vrai que je leur balançais un peu sur les épaules de dire écoutez, hein, c'est trop lourd pour moi, j'en peux plus. Maintenant, bon courage, essayez de faire ce que j'ai pas pu faire. Voilà, ça résume ça. Et en fait, c'était aussi les rassurer en leur disant que je les aimais beaucoup et que... C'est qu'à un moment donné, vous savez, quand on tombe, on a l'impression qu'on n'est plus aimé. Être aimé dans le travail, c'est être reconnu comme une valeur, une vraie valeur. Et dans le boulot, on a le droit aussi à avoir une reconnaissance sentimentale, en fait, d'être pris comme, pas comme quelqu'un de compétent, mais aussi comme quelqu'un de qui s'est donné pour les autres, qui se donne aussi pour ses clients, et c'est ça aussi, ça fait partie des gestes d'amour, de bien servir son client, parce qu'en fait, on fait bien son travail. Donc il faut donner du temps aux salariés pour leur dire vous êtes courageux, vous êtes brillant, vous êtes... Il ne faut pas leur dire systématiquement les chiffres sont mauvais, il faudra faire mieux pour le trimestre prochain. C'était les dernières participations à des réunions où j'ai entendu, et c'est blessant de passer du temps sur les points qui sont pas bons et pas suffisamment de temps sur les points qui sont vraiment excellents.
Vous leur en avez parlé à vos proches des problèmes que vous aviez au travail?
On en parle toujours, mais en fait, quand vous dites j'ai des problèmes dans mon travail, en fait, ils perçoivent qu'en fait, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Ils ne pensent pas que l'entreprise est la cause de votre mal-être au travail, en disant, bah voilà, t'as toujours des problèmes avec ton boulot, tu devrais te remettre en cause. Et ça, ça fait partie de l'environnement qui vous rejette à la figure en disant que c'est peut-être pas forcément l'entreprise, c'est peut-être toi qui va pas bien. Et dans l'entourage, bah, ils ont plutôt envie que vous parliez de cinéma, que vous parliez des futures vacances et tout ça. Et puis voilà, puis de dire, bah, après, tu sais... Ben, les vacances cette année, ça sera peut-être juste, parce qu'à cause du boulot, ben, j'ai ma prime qui a baissé, parce qu'en fait, voilà, on me reproche. Pensez que la perception de votre entourage, il est comment? Il est complètement pollué. Donc en fait, petit à petit, vous vous désagrégez du travail, et puis vous vous désagrégez sur le social, sur la famille, sur plein d'autres pans. Alors quand on dit, ben, par rapport à un travailleur physique, travailler à France Télécom, c'est quand même pas mal. Même beaucoup de gens tombent des nues en disant « Mais c'est si difficile que ça, travailler à France Télécom ». Eh bien oui, c'est difficile de travailler à France Télécom. Oui, parce que les conditions sont pas en regard de la pression qu'il y a et de la complexité des opérations qui s'y réalisent. Et je crois que les gens ne sont pas conscients. C'est en fait, quand vous rentrez en fonction à France Télécom, vous évoluez. Et aujourd'hui, l'évolution des réseaux est telle qu'en fait... vous n'êtes jamais à l'abri d'être obligé de réapprendre constamment dans votre métier quelque chose de nouveau. La technologie, les méthodes, les outils, et constamment, et avec une forte dose d'auto-formation et de tutorat. Et ça, c'est hyper crevant. Et aujourd'hui, ben, on est en position de transmission du savoir vers des gens, en fait, qui n'ont pas la culture de France Télécom, qui n'ont pas ils le prennent que pour réaliser du chiffre. Ils ne le réalisent pas pour en faire une culture d'entreprise. À partir du 15 février, en fait, je demandais à reprendre mon activité. Donc au sein de France Télécom, donc en mi-temps thérapeutique, j'ai repris un poste, disons mission temporaire, de façon à pouvoir redéfinir en fait mon projet professionnel dans l'entreprise avec France Télécom. C'est pas facile. Je vais apprendre à dire non à certaines choses. J'étais arrivé à un point où je portais France Télécom comme un uniforme. Et la marque, il faut pas trop s'identifier à la marque, il faut s'identifier au travail que l'on fournit et s'en tenir là.
Est-ce que vous pensez que les choses changent?
Sur deux réunions de groupe récemment auxquelles j'ai participé, j'ai senti quand même qu'il y avait quand même deux tiers de la population qui exprimait encore son mal-être. C'est-à-dire qu'il y a une demande quand même de solutions profondes. Or, aujourd'hui, les changements ne sont pas profonds. Donc, il faut arrêter le massacre. Aujourd'hui, on n'est pas venu sur Terre pour mourir du travail. Il faut que ce soit un plaisir de venir travailler. Il ne faut pas que ce soit un forçage de venir travailler. Et il faut que l'entreprise prenne vraiment la dimension qu'en fait, un humain heureux, eh bien, il produit bien.
Suivant. 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 Suivant.
Ma serviette qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main.
Suivant.
J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne.
Suivant.
peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais un suivant, un suivant. Ce ne fut pas Waterloo, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armes et d'impuissants. Suivant, suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix de pluie, je l'entends tout le temps. Suivant, suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Et depuis, chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer. Suivant du monde, je voudrais se donner la main, voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Un jour je me ferai cul-de-chat, ou bonne sœur, ou pendu, enfin un de ces machins où je ne serai jamais plus suivant, suivant. Jamais plus le suivant, suivant.
C'était Vague de suicide chez France Télécom, une émission de Charlotte Bien-Aimée réalisée par Emmanuel Geoffroy et diffusée pour la première fois le 30 mars 2010 que je vous proposais de réécouter à l'occasion de l'ouverture du procès France Télécom, ouverture qui a eu lieu lundi dernier le 6 mai. Merci à Jacques Bigré, à sa compagne, à Philippe Larue du journal La Provence, à Massimo Bellini qui s'est occupé de cette rediffusion, à Jeanne Delecroix, à Camille Richir et à Zoé-Marie Roulier.